Apocalypse 10, on continue. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire « Ferme d'un sceau ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il jura qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer, sur la mer et sur la terre. » J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit « Prends le et avale-le, il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, le chapitre 10 de l'Apocalypse, ces gens qui continuent à nous décrire ce qu'ils voient. Ils voient un autre ange puissant qui descend du ciel, vêtu d'une nuée sur sa tête, un arc-en-ciel, un visage comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Qui était cet ange puissant, à votre avis ?
Jésus.
Oui. Dieu. Tu n'en sais rien ? C'est bien. Il n'y a pas de réponse absolument certaine. Certains pensent que c'était simplement un ange puissant, mais il y a des raisons de penser que c'est Jésus, parce que lorsqu'on regarde la description de l'Apocalypse 1, lorsqu'on avait vu Jésus, tu veux souligner quelques points ?
Dans l'Apocalypse 1, de 1 à 14.
Oui.
Donc, à 14, c'est sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa droite, et avant, il y a sa robe longue qui est décrit, je crois, dans le monde. Non.
Voilà, mais il y a plusieurs éléments.
Les pieds des reins, les colonnes de feu.
Voilà.
Son visage comme le soleil aussi.
Voilà. La nuée, c'est souvent un signe de la divinité dans la Bible.
Et l'arc-en-ciel, c'était ce qui était autour du trône.
C'était aussi ce qui était autour du trône. C'était le signe de l'alliance de la Genèse entre Dieu et Noé. Genèse 9, 13 et 16. « Je place mon arc dans la nuée. Il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. » Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants. Et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle, entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre.
Je m'excuse pour la référence de tout à l'heure, Pierre. La référence 10-4, c'est dans Daniel. La vision de Daniel dit « Un homme vêtu de lin, son corps comme de la prison lit. » Son visage brille, ses pieds sont des reins et sa voix est comme le bruit d'une multitude.
Voilà. Alors, la raison pour laquelle certains commentateurs pensent qu'il s'agit d'un ange et non pas de Jésus, je vous la livre, c'est le fait que l'autre ange C'est le mot autre qui veut dire de autre, de la même nature ou de la même, du même genre que. Ils disent qu'en fait Jésus n'est pas du même genre que les anges. On a même utilisé cet argument pour dire que Jésus n'était pas un ange à un moment donné. Mais c'est vrai que l'ange de l'Éternel dans tout l'Ancien Testament, ça fait souvent référence à une apparition préincarnée de Jésus-Christ qui vient donc parler aux hommes avant même son incarnation à Bethléem. Donc, que fait cet ange qui est tout puissant? Il tient à la main un petit livre ouvert. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce petit livre? Où est-ce qu'on a vu un livre, déjà? Si vous étiez là. Ou si vous avez lu l'Apocalypse.
Qui a été ouvert, le livre des sept sceaux.
Vas-y, oui.
J'ai oublié le nom.
Déjà en anglais. Et on a dit que ce rouleau... C'était quoi? C'était le...
Je crois que c'était le titre.
Titre de propriété de la terre. Là, il est question d'un petit livre, d'un tout petit livre. Quand il est question de ce petit livre ouvert, mais tous les commentateurs s'accordent à penser qu'il y a une relation entre le rouleau qui vient d'être ouvert... Et ce petit livre, peut-être que c'est un plus petit rouleau qui porte les points principaux du grand rouleau. Parce qu'on pense qu'en fait, lorsque l'ange qui est Jésus, on va partir de cette hypothèse, en admettant que vous pouvez la contester, cet ange, ce Jésus, il tient le livre ouvert, il tient le livre de propriété... Et il a un pied sur la mer et sur la terre. C'est un peu comme une avant-première du retour de Jésus sur la terre. Il rappelle qu'il a repris la propriété de la terre, de la mer, de toute la planète Terre. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Il crie d'une voix forte. On a vu qu'il y avait des voix fortes qui étaient comme les eaux. On en avait parlé dans le premier chapitre, une voix comme des eaux. Et puis, il rugit comme un lion. C'est le lion de Juda qui est aussi l'agneau de Dieu. Et où est-ce qu'il y a un lion qui rugit dans la Bible ? Where is there a roaring lion in the Bible? Quel passage? C'est pas la Metro Goldwyn Mayer, c'est quoi? C'est le diable dans 1 Pierre 5:8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et en fait, ce que fait le diable là, c'est d'imiter. Ça, c'est un principe. Le diable est toujours en train d'essayer d'imiter Dieu, d'imiter Jésus. Mais là, c'est Jésus qui rugit comme un lion. Et puis, ça déclenche une série de 7 éléments. On a vu les 7 sceaux. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les 7 chandeliers, mais qu'on a vu depuis le chapitre 4. Les 7 trompettes. Là, il y a les 7 tonnerres. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura après? Les 7 coupes ou les 7 bols. Bols, en français. Mais les 7 tonnerres, on n'en sait pas grand-chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas grand-chose sur ces 7 tonnerres? C'est pas une question piège, c'est juste pour voir si vous lisez, si vous êtes présent ou pas. L'ange lui a dit de sceller, c'est-à-dire de fermer comme avec un sceau ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction cette précision. Dieu nous dit qu'il y a... Il se dit quelque chose, mais dit à Jean de ne pas le dire. Ça vous satisfait ?
Non, c'est frustrant.
Ah, voilà. Et quelqu'un qui est frustré, oui. Nancy, tu allais dire ?
Et que ça va être révélé à un moment donné.
Il n'y a pas de précision quand est-ce que ça va être révélé. Peut-être que ce sera révélé de l'autre côté de l'éternité. Mais est-ce que vous pensez que Dieu... Pourquoi est-ce que Dieu a mis cette remarque dans la parole ? À votre avis,
souvent Dieu attend une certaine maturité pour révéler les choses tant qu'on soit mature, donc peut-être que c'est pas le bon temps, le bon moment.
Oui,
je sais pas,
c'est un peu la piste
pour nous montrer qu'on n'est pas censé tout savoir non plus.
Oui,
il y a des choses qui existent mais qu'on ne sait pas et qu'il ne veut pas qu'on sache.
Tout à fait, je pense que c'est pour nous rappeler que Dieu ne nous révèle pas tout. Les scientifiques, les chercheurs sont tout contents lorsqu'ils trouvent un petit mystère. Mais il y a tellement de choses que l'homme ne connaît pas encore. Et il y a des choses que Dieu ne souhaite pas que l'homme connaisse pour l'instant. Il y a un verset très important qu'il est bon pour vous de connaître. Est-ce que vous savez, dans Deutéronome, il y a un passage qui dit quoi ? C'est Deutéronome.
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
D'accord. Donc, il y a certaines Bibles françaises qui ont comme la même numérotation que les Bibles anglaises. La Bible à la colombe est décalée d'un verset à la fin. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir, parce que beaucoup de gens aiment bien poser des questions farfelues, ou des questions pourquoi est-ce que Dieu a permis à Satan de rester, pourquoi est-ce que Dieu tolère le péché. On a beaucoup d'éléments de réponse quand on lit toute la Bible. Le fait que Dieu veuille une relation d'amour avec nous fait qu'il veut qu'on choisisse d'aller vers lui. Donc il a choisi qu'on ait l'option de ne pas aller vers lui, et c'est ce que la Bible appelle le péché. Donc ça, c'est pas une réponse complète, mais c'est une explication qui peut vous satisfaire, ou du moins vous faire patienter avant d'avoir une réponse complète. Mais c'est très important de savoir que ce qui compte, c'est de connaître les choses qu'il nous a révélées. Et je vous dis pas le nombre de commentaires qui existent sur ce qu'étaient les sept tonnerres. Les gens ont passé plus de temps à se demander ce que disaient les sept tonnerres qu'à voir ce qui était dit dans le reste. Ça, c'est notre esprit de curiosité, mais aussi de rébellion. On ne veut pas que je sache, je vais tout faire pour trouver. Et donc, on ne sait pas ce que les sept tonnerres ont dit.
Ils ont parlé en tonnerre.
Voilà, il faut.
On comprend pas le point.
Voilà. Et donc ils avaient parlé successivement. Ils avaient tous parlé. Il n'y avait pas eu ce silence entre le sixième coup de tonnerre et le septième coup de tonnerre, ou du moins c'est pas décrit. Et puis il est dit que l'ange, donc Jésus, dans mon façon d'interpréter ce passage, leva la main droite vers le ciel, levez la main droite et dites « Je le jure ». Il est dit qu'il jura par celui qui vit au siècle des siècles. Il jura quoi ? Qu'on ne l'y reprendrait plus. Non, il jura quoi ?
Quand la septième trompette sonnerait, le mystère de Dieu s'accomplirait ?
Non.
Qu'il n'y aurait plus de délai.
Voilà, hein, d'abord.
D'abord.
D'abord, c'est simplement. C'est, ça veut dire quoi, cette histoire de délai, à votre avis ? C'est...
Mais c'est vraiment le temps.
Oui, c'est par rapport au verset quand Jésus dit qu'il veut que tout soit sauvé, donc aucun rapport. Qu'il attend chaque fois un peu plus, non ?
Oui. Non, des fois les gens s'impatientent avec Dieu, disent Dieu, pourquoi tu agis pas ? Regarde les assassinats, regarde le terrorisme, regarde la souffrance, regarde la corruption, regarde le péché. Il est promis, Dieu nous promet que Jésus va revenir avec une barre de fer qui va remettre les pendules à l'heure. Nous prions. Quand nous prions la prière de Jésus à son papa, que Jésus nous a enseigné plutôt, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Dieu retarde son retour. Dieu est tellement patient. Pourquoi est-ce qu'il est patient ? Parce que justement, comme tu le rappelais, il veut que tous arrivent à la repentance et à la connaissance de Dieu, qu'ils soient tous sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et là, les choses vont se mettre en branle, que ces temps que l'on appelle, on se dit pourquoi il n'y a pas de justice, pourquoi maintenant ça va se mettre en branle et le mystère de Dieu va s'accomplir. Qu'est-ce que c'est un mystère dans la Bible ? On va prendre un exemple. Si je vous demande de me dire dans quel hôpital je suis né, dans quelle ville et dans quel hôpital je suis né, il y en a qui le savent ? Même Nancy ne le sait peut-être pas.
L'hôpital, non.
Voilà. Oui. Je suis né à Saint-Mandé, à l'hôpital militaire Béraud.
Sur la planète Terre.
Sur la planète Terre, en région parisienne. Val-de-Marne.
Région parisienne.
Maintenant, vous le savez. Si je ne vous l'avais pas dit, vous auriez pu peut-être aller chercher dans l'état civil, etc., et avoir cette information. Vous avez connaissance de ce qui aurait été un mystère si je ne vous l'avais pas révélé. Ce n'est pas une chose impossible à trouver, c'est quelque chose que vous ne pouvez connaître que par révélation. Et de la même façon, dans la Bible, il est question de mystère, et le mystère de la séparation du peuple, de l'unité du peuple juif des chrétiens, le mystère de la séparation qui va être enlevée, ça c'est dans Éphésiens, c'est quelque chose qu'on ne connaîtrait pas si ce n'était pas révélé. Mais ce n'est pas un mystère au sens de mystère et boule de gomme, en français on dit. Le mystère policier, il faut chercher des pistes, etc.
Pourquoi c'est différent ? Tu dis qu'un mystère, c'est de chercher ta date de naissance et où tu es né. C'est un mystère.
Parce que si je te le révèle pas, tu peux pas le savoir. Par contre, chercher le responsable dans un crime, tu peux le retrouver par déduction.
Avec des indices.
L'idée, c'est que c'est révélé, c'est pas quelque chose qui est caché jusqu'à la fin.
Donc l'hôpital, si on peut le trouver par déduction en cherchant, c'est pas un bon exemple.
Je suis d'accord que c'est un mauvais exemple, mais c'était pour vous faire comprendre qu'il y avait cette part de révélation et que ma comparaison cesse d'être une bonne comparaison lorsque je vous dis qu'en fait, si vous allez voir mon état civil, mais ça c'est en dehors. L'idée, c'est que un mystère, c'est pas un mystère qu'on ne peut pas connaître dans la Bible, c'est un mystère qu'on ne connaît pas tant que c'est pas révélé dans la parole. Et là, le mystère dont il est question, c'est quoi, à votre avis ? Allô ?
La sonnerie de la trompette.
C'est la septième trompette. Pardon.
Mais il faut penser que c'est quelque chose qui n'a pas déjà été révélé, donc ce n'est pas le plan de Dieu pour les hommes, parce que ça a déjà été révélé.
Non, mais justement, la Bible peut appeler un mystère de Dieu la bonne nouvelle à ce qu'il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est simplement l'évangile que ceux qui lui appartiennent vont vivre avec lui pour toujours et ne subiront pas la peine, le châtiment. Et ça, il dit que maintenant ça va se mettre en route, on arrive à la consommation des temps et que les choses vont se mettre en piste.
On va regarder ce qui se passe avec le prophète, on lui donne la réponse.
Oui. Dis-le-nous.
Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles.
Voilà. Alors, verset 8, la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et là, Jésus lui donne le petit livre en disant, prends-le et avale-le, il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Comment vous comprenez cette idée de manger de ce livre qui est amer et puis qui devient doux, plutôt doux et puis qui mélange doux-amer? Quand vous lisez la parole, est-ce qu'il y a des moments où ça vous fait du bien? Et puis il y a des moments où est-ce que ça vous fait du mal? Quand ça vous reprend, quand ça vous convainc de péché, de justice, de jugement, il y a cette double action de la parole qui est saine, qui est saine et bonne. On peut se rappeler le passage de 2 Timothée 3,16. Vous vous souvenez de ce grand passage sur la parole de Dieu. Toute écriture, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Ça sert à nous enseigner, ça nous convainc aussi de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien dans notre vie. Ça nous redresse, ça nous corrige. Et sur le moment, la correction n'est jamais plaisante, à moins d'être un peu masochiste, pour éduquer dans la justice. Donc il y a ce double aspect. Et lorsque on voit dans la parole de Dieu, il y a encore une fois, l'Apocalypse est imprégné de l'Ancien Testament, de toute la Bible, mais de l'Ancien Testament. Et souvent, les choses que l'on voit dans l'Apocalypse se sont déjà passées dans l'Ancien Testament. Qui a déjà mangé un livre dans la Bible ? Ézéchiel 3.3, regardez, Ézéchiel 3.3. Si quelqu'un peut le lire.
Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Tu veux que je le prenne ?
Non, si quelqu'un d'autre veut lire le Jérémie 15.16. Oui, Anne.
J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées.
Dieu ne force jamais sa parole sur nous. Il nous la tend, il nous la propose et c'est à nous de la recevoir. Il y a plein d'autres passages dans les psaumes. Psaume 119-103, que tes promesses sont douces à mon palais, plus doux, plus que le miel à ma bouche. Psaume 19, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Quand on est en relation avec Dieu, dans une relation riche et intime, ces paroles vont vraiment nous faire du bien et aussi nous reprendre. Donc il y a ce double aspect d'amertume et de douceur.
Parce qu'on a une belle possibilité de comparaison avec le rouleau qui était type de propriété de notaire.
Ben, en fait, le rouleau, il annonçait que la terre appartenait à Dieu, et ça, c'est une bonne nouvelle qui fait du bien de savoir.
Mais pourquoi il y a de l'amertume ?
L'amertume, c'est qu'il fallait qu'il arrive à cette crise, que jusqu'à présent, c'était Satan qui était le prince de ce monde, et que maintenant, c'était enfin Dieu qui reprenait, et que... Alors, c'est vrai que c'est assez succinct comme information sur ce petit livre, mais la plupart, encore une fois, c'est chacun est libre de, d'après ce qui est révélé, de se former son interprétation, mais c'est l'interprétation la plus logique dans le contexte, et aussi le fait de réclamer la terre avec un pied sur la terre, un pied sur la mer. Vous pouvez imaginer, ça c'est presque des scènes de cinéma avec le... J'ai repris la terre, la planète Terre, la mer et la mer et la terre m'appartiennent. Alors, il est possible aussi qu'il y ait eu à l'intérieur des informations sur le futur encore, puisqu'on lui dit tout de suite après, verset 11, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Et on va voir ces prophéties dans le chapitre 11. Alors c'est un chapitre court, le chapitre 10, avec beaucoup de choses qui ne sont pas dites, notamment les sept tonnerres qui nous frustrent. Et puis certaines ambiguïtés sur l'identité de l'ange. Et sur la nature exacte du petit livre, est-ce que c'est un petit résumé du titre de propriété, est-ce que c'est un relevé cadastral céleste qui dit à quel de quel côté sont les planètes, etc. Mais ce qui compte, c'est que Dieu a repris contrôle de la terre. En prenant que ce soit Jésus d'ailleurs ou pas Jésus, si c'est un autre ange puissant, c'est la terre est retournée dans le giron de Dieu. Et la semaine prochaine, Tonio parlera de la septième trompette à laquelle il a fait allusion. Je pense que je ne sais pas si on finira ça ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà étudié ce passage avec d'autres façons d'interpréter? Voilà, mais s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter maintenant parce qu'après on a un chapitre assez long. On va prendre un petit break. Chapitre 11. Qui voudrait lire les versets 1 à 6? Élodie. Et puis... Versets 7 à 14. Anne, ça fait des points en plus, tout ça.
C'est pour ça.
C'est... Faut le savoir. Hein.
On aura des couronnes.
Voilà. Vas-y.
Et une couronne. Les deux témoins. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parti extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront.
Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt.
C'est bon, on va s'arrêter là. Juste un petit retour sur le chapitre 10, le moment où verset 6 de chapitre 10, l'ange jura par celui qui vit au siècle des siècles. Tabéa m'a demandé qu'est-ce que c'était. La Bible nous dit de ne pas jurer, que notre oui soit oui, notre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Là, c'est Dieu qui affirme solennellement, et Dieu on jure toujours sur quelqu'un de plus grand que soi, on jure sur la Bible, on jure pas sur. Je jure sur la tête de mon petit caniche. On jure sur quelqu'un de plus grand, et Dieu étant Dieu, Jésus étant le Fils de Dieu, Dieu le Fils et Dieu le Père, il ne peut jurer que sur Dieu lui-même. Donc c'est aussi une façon de penser que. C'est une façon solennelle pour Dieu d'affirmer sa parole. Et c'est aussi un texte dans Daniel 12, 7. Alors, revenons donc au nouveau chapitre devant nous, le chapitre 11. Là, encore une fois, on fait faire à Jean quelque chose qu'on voit faire dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça implique lorsqu'on mesure quelque chose? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on mesure quelque chose? C'est pour quoi faire? Ou c'est un signe de quoi?
De jugement.
De jugement? Dans quel sens?
Pour le comparer.
Pour le comparer?
Pour connaître la dimension quand on mesure.
Ça paraît tout bête, hein? Pour?
Déménager.
Déménager?
Il y a un côté propriétaire, cadastre.
C'est pour construire. Mais c'est vrai que c'est. Donc, on évalue quelque chose en fonction de sa distance. Et si on l'évalue, c'est parce que peut-être on veut faire des travaux. C'est un signe du fait que ça nous appartient, que c'est pas. Si vous allez mesurer la salle à manger de chez quelqu'un où vous êtes invité, vous dites, mais qu'est-ce que vous faites là? À moins de faire une surprise, acheter du papier peint ou de la moquette et de refaire toute la moquette, c'est possible, mais c'est souvent un signe de possession et c'est une façon pour Dieu de dire qu'il possède la cité où se trouve la ville sainte, dont il est question au chapitre 2, c'est qui la ville sainte? Ou quoi la ville sainte?
Jérusalem.
Oui, c'est pas une question piège. Hein, c'est...
On a toujours peur.
C'est oui.
Juste.
Mais non, c'était Saint-Martin de Vésubie. La ville sainte, c'est Jérusalem. Et il est question... pour Dieu de dire qu'en fait cette cité lui appartient et ce temple qu'il fait mesurer, il les réclame pour lui, ils lui appartiennent. Et c'est aussi l'idée d'une d'une évaluation, non seulement de mesure, mais d'une évaluation spirituelle du peuple qui vit là et qui adore dans ce temple. Le roseau dont il est question, c'était généralement une baguette en bambou ou en roseau qui mesurait 6 coudées, ou à peu près le 3 mètres à peu près. Alors là encore une fois, comme dans beaucoup de passages de la Bible, si on prend le parti de penser qu'il y a des symboles et qu'on voit des symboles partout, certains pensent qu'en fait là il est question de mesurer l'Église, mais l'Église elle n'est plus là, et en fait la façon la plus sensée, la plus directe, la plus normale, c'est de considérer qu'il s'agit bien d'un temple, un vrai temple, et qu'il se trouve à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec le dernier temple qui était à Jérusalem? Il n'y est plus. Pourquoi? Il a été détruit, hein? On est d'accord? En fait, il y a eu combien de temples, à votre avis, dans l'histoire à Jérusalem?
3.
Alors, le premier, c'était lequel?
Salomon,
hein, celui que David voulait construire, mais que Dieu ne l'a pas laissé construire parce qu'il avait les mains pleines de sang. Il lui avait dit par l'intermédiaire du prophète Nathan. Donc ce temple, il a été détruit à quelle époque? Avec la prise de Jérusalem par les Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, les Babyloniens, en quelle année à peu près? 586, 87, ça dépend des calculs. Donc il a été détruit, et puis il y a eu un deuxième temple qui a été reconstruit par qui a reconstruit un deuxième temple en revenant d'exil? Zorobabel. Zoro est arrivé. Zorobabel, il a bâti avec l'autorisation du roi Cyrus, le roi de Perse. Mais là, il n'y avait déjà plus. Qu'est-ce qui manquait comme élément clé? L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance n'était plus là. Il avait disparu avant que Steven Spielberg le retrouve dans son imagination. Et puis, donc ça c'était un petit temple. Parce qu'en fait, le temple, c'était assez petit, quoi. On pense souvent au temple qui a suivi, qui était le temple de qui? Comment on l'appelait, le temple? Le troisième. Le temple d'Hérode. Donc, Hérode, c'était... Alors, lui, ce temple a été détruit, mais il a commencé à le construire en 20 avant Jésus-Christ. Et ça s'est terminé seulement en 62 après Jésus-Christ. Il n'était pas fini lorsque Jésus a été crucifié. Et puis, en l'an 70, les troupes romaines de Titus, qui était le fils de l'empereur Vespasien, ils ont assiégé la ville et ils ont brûlé. Le feu a pris dans le temple. Ça a fait fondre parce que il y avait beaucoup d'ornements qui étaient en fait en bois d'acacia recouvert d'or, donc ça brûlait très bien et ça faisait fondre l'or. Et l'or a coulé avec la chaleur intense, l'or a fondu et a coulé, et les soldats romains ont voulu mettre la main sur cet or, et pour retrouver cet or qui coulait entre les interstices, ils ont mis tout sans dessus dessous. Ils ont complètement accompli la prophétie que Jésus avait dit, que ce temple serait détruit. Et il leur avait dit dans Matthieu 24, versets 1 et 2, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc ce troisième temple, qui était un temple monumental, le temple comme le tabernacle, c'était un endroit où comment s'appelait le lieu au centre dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament? C'était la tente de...
L'assignation.
L'assignation, ou un autre terme, c'était... Tente de la rencontre, il y a aussi ce terme. C'était l'idée de Dieu en faisant ce temple, en prescrivant ce temple, c'était pas d'impressionner les touristes, c'était de faire un endroit de rencontre. Et c'est vrai que le roi Hérode, lui, c'était un bâtisseur, il a construit le palais de Massada, quand on va en Israël, on voit beaucoup de ses œuvres, des forteresses, c'était un roi architecte. Il n'était pas juif, il était originaire de... Il était idouméen, il était haï par les vrais juifs, mais il avait reçu le pouvoir par Rome. Et lui avait essayé de faire quelque chose d'absolument grandiose et monumental. Et c'est ce qui faisait que les disciples étaient sensibles à la beauté architecturale. Ils étaient très fiers de montrer le Negresco de l'époque. On n'a pas grand-chose ici à montrer. Hein. Ah si, maintenant, il y a les sept vallées. La colonne des sept vallées rouillée. Mais c'était le monument. Maintenant, quand on va à Jérusalem, quel est le signe distinctif? On sait tout de suite qu'on est à Jérusalem quand on fait un reportage ou les reporters. Pardon ?
Le dôme du roc.
Voilà, le dôme du roc. Et c'est en fait une mosquée dont le toit est recouvert d'une belle pellicule d'or qui brille et qui est splendide, qu'on appelle le dôme du roc ou du rocher. Et c'est en 691 qu'un sultan arabe, Abd al-Malik, a construit cette mosquée avec des murs bleus et la coupole dorée. Et c'est, d'après l'islam, le troisième lieu sacré, parce que de là se serait échappé, parti à cheval, le prophète Mohammed. Mais ça, c'est contesté même par certains musulmans. Il n'y a pas de réalité historique sur cette histoire. Et donc, ce récit-là, du chapitre 11, on voit, si on ne fait pas de la symbolisation à outrance, qu'en fait il y a un temple qui se trouve là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre maintenant, où il n'y a pas de temple mais des mosquées, et le moment où il va y avoir ces événements, un temple a été reconstruit. Donc on parle souvent de la reconstruction du temple, et beaucoup pensent que si les juifs veulent construire le temple, il va y avoir la troisième guerre mondiale, parce qu'ils vont devoir détruire les mosquées. Il y a deux mosquées, en fait, sur le terre-plein de qu'on appelle le mont du Temple. Il y a le dôme du Rocher, et puis il y a la mosquée Al-Aqsa. Et ce sont des endroits, quand on va en Israël, auxquels on ne peut pas rentrer. Nous, on n'avait pas pu rentrer dans la mosquée, le dôme du Rocher, mais on peut vraiment on pouvait se promener, ça dépend des événements, s'il y a des attentats, s'il y a des intifadas.
Quand on était avec Mabie, il y avait en fait le Ramadan.
Oui.
Mais il laissait quand même une matinée dans la semaine.
D'accord.
Où on avait accès.
Ouais.
On a réussi.
À... Ouais. Quels ont été
et après, en fait, quand tu dis que c'est le troisième lieu, c'est ça?
Oui.
Après la Mecque, il y a ça, voilà, c'est vraiment...
Il y a la Mecque, après je ne sais plus quel est l'autre, c'est Médine peut-être.
C'était vraiment le lieu sacré. Ouais.
Donc c'est chargé d'histoire, ça fait quelque chose de se retrouver là-bas, non? C'est un peu comme quand on se retrouve devant la Statue de la Liberté ou à la Tour Eiffel pour les touristes étrangers. C'est un lieu qu'on a vu tellement de fois sur les écrans, on a entendu parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que il y a des juifs en ce moment qui sont prêts à reconstruire ce temple. Il y a toute une organisation. Il y a ce qu'on appelle l'Institut du Temple qu'on peut visiter à Jérusalem. Malheureusement, nous n'avions pas pu, on n'avait pas eu le temps de le visiter. Vous aviez visité, Élodie, l'Institut du Temple, non?
Non.
C'est l'endroit où ils montrent des maquettes, ils montrent aussi les ustensiles. Ils ont préparé des ustensiles pour que l'on puisse reprendre le service du Temple une fois que ce sera prêt. Parce que depuis l'an 70, il y a plus de, on peut plus, les Juifs ne peuvent plus offrir de sacrifices et vraiment vivre leur foi telle qu'elle. C'est bancal leur religion. C'est une religion qui est basée sur des sacrifices qu'ils ne font plus. Et ils sont vraiment impatients de reconstruire ce temple. Il y a même des recherches génétiques pour trouver la vache rousse qui correspond le plus, d'après eux, à ce qu'était la vache rousse de l'Ancien Testament. Et il y a des gens qui sont prêts à, dès qu'il y a une autorisation, à reconstruire ce temple et à reprendre le service. Donc c'est des Juifs ultra-orthodoxes, ils rassemblent des fonds, ils ont des plans. Et il y a, dans les années 80, il y a un ingénieur, Asher Kaufman, qui a refait des mesures et des recherches historiques et qui s'est dit qu'en fait, il pourrait reconstruire l'emplacement du temple, ce ne serait pas exactement sur la position des deux mosquées. Donc il est possible qu'on puisse refaire ce temple sans passer par la Troisième Guerre mondiale. Et quand on va là-bas en Israël, les guides en principe ont toujours des dernières nouvelles à nous donner. Nous, c'était quelqu'un qui avait installé internet, ils avaient vu qu'en fait il y avait des câbles qui passaient par là, donc il y avait un passage au terrain. Et alors il y a beaucoup d'excitation, de conspiration, mais c'est quelque chose qui mobilise beaucoup les gens. C'est pas un truc éthéré, une idée. Et là, on va peut-être faire un petit retour rapide à la prophétie de Daniel, parce que ça, tout se tient. Daniel 9:24, pardon. Encore une fois, c'est sans doute la plus grande prophétie biblique, parce qu'elle parle des 70 semaines, du temps de l'Église, de la grande tribulation, etc. Je relis à partir du verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Il est question de Daniel qui était juif. Sur ta ville sainte, c'était quoi cette ville sainte ?
Jérusalem.
Très bien. Pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après 62 semaines, un Messie sera retranché, il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant de la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il faudra donc que les sacrifices et les offrandes aient repris pour qu'arrivent tous ces événements. On a rappelé que Jésus, il y avait une première réalisation de cette prophétie lorsqu'il y avait le roi Antiochus Épiphane, un successeur de Alexandre le Grand, qui s'était installé à Jérusalem et qui avait sacrifié des cochons, qui étaient un animal impur, des porcs dans le temple. Ça, c'était une abomination des abominations. Mais Jésus, dans Matthieu 24:15, reprend la prophétie en disant « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. » L'abomination de la désolation, il y avait une première réalisation avec l'invasion et l'occupation par un roi, un païen ou un roi impur dans le temple. Mais dans 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, Paul nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Alors, ça veut dire que les 70 semaines, en fait les semaines, c'est des septaines, c'est mieux traduit par septaines, et c'est des périodes de 7 années. Et 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sa ville sainte, c'est 490 ans. Car 7 fois 7, 70, 490. Et quand on prend la date du décret qui a été promulgué par Artaxerxès, que l'on trouve dans le prophète Néhémie, chapitre 2, verset 1, qu'on ajoute les dates, on arrive pour l'arrivée du Messie, 69 semaines, on arrive à la date de l'entrée de Jésus comme un roi sur un ânon dans la ville de Jérusalem. Et puis après ces 62 semaines, ça faisait 69 semaines, ça faisait 483 ans, multiplié par le nombre de jours, on tombe exactement à la date près, d'après les recoupements. Le Messie est retranché, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il n'y aura personne pour lui, personne n'est allé l'aider. Et puis le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, sa fin arrivera comme par inondation. Ça, c'était l'arrivée de Titus et des armées romaines. Mais, comme beaucoup de prophéties, il y a une réalisation immédiate ou proche, et puis il y a une réalisation à la fin des temps. Et le fait que Jésus, une fois qu'il était sur terre, parler de l'accomplissement de la désolation, de l'abomination de la désolation, montrait bien qu'il voyait ça comme un événement aussi à la fin des temps. Et c'est l'événement dont on va voir le déroulement dans le reste de l'Apocalypse. Il est question de... Alors, je suis dans Daniel, là. Revenons à l'Apocalypse. Est-ce que ça vous... Si vous avez des questions, on a fait une étude sur Daniel. Tonio avait fait une étude sur Daniel. C'est en ligne, si vous voulez reprendre cette étude. On en avait reparlé aussi ici, pendant cette étude. Il est question de... On lui dit de mesurer le temple, mais on lui dit de laisser de côté le parvis extérieur. Pourquoi ? Pour quelle raison ? C'était une question qui était posée dans les petites questions. Et ça revient dans cette idée de « on se moque de ce qui ne nous appartient pas vraiment ». C'est que c'est laissé, c'est dit, hein, ne mesure que le temple même. Mais le parvis extérieur, laisse-le de côté, ne le mesure pas. Dans le temple, il y avait deux parties. Il y avait le Saint des Saints, où il y avait l'Arche de l'Alliance, et puis la partie avec les deux chérubins. Et la présence de Dieu était au-dessus de l'Arche. Ça, on le voit quand on lit la dédicace du temple avec Salomon. Et puis devant, c'était séparé par un grand rideau, et il y avait ce qu'on appelait le saint lieu, où il y avait des tables, des pains de proposition. Sur la droite, devant, il y avait un petit autel des parfums, et il y avait un chandelier qui éclairait l'endroit. Et puis, en dehors de ça, il y avait le parvis. Et là, c'est laissé, le parvis extérieur du temple, il est laissé aux païens. Donc ne le mesure pas, parce que on s'en moque. Il a été donné aux nations. Les nations, c'était, on parle des fois de la nation juive, mais pour les juifs, il y avait les juifs et il y avait les ethnies, il y avait les autres races, il y avait les nations. Donc c'était les païens ou les nations, c'est la même chose. Et ces nations, ces païens, vont fouler aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, ça fait combien d'années ?
3 ans et demi.
Et 3 ans et demi, c'est la moitié de quoi ?
7 ans.
Oh, une septaine. Voilà. Et puis, il dit que j'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ça fait combien d'années, 1260 jours ? Si on prend des années de 360 ans.
3 ans et demi.
Voilà, on est en plein dans la septième année dont parle le prophète Daniel. On dit que c'est la 70e semaine, et on a expliqué que c'est un peu comme si Dieu reprenait après la parenthèse merveilleuse de l'Église qui nous permet d'être au bénéfice du salut et de l'amour de Dieu. Il redéclenche le chronomètre de l'histoire pour que cette septième semaine se déroule, c'est-à-dire ces 7 années, et il va y avoir 3 ans et demi où les nations vont fouler aux pieds, et il va donner... Là, c'est une raison de plus de penser que ce n'est pas un ange particulier, mais que c'est bien Jésus-Christ qui accorde à ses deux témoins le don de prophétiser revêtu de sacs pendant 1260 jours. Et puis, verset 4, si vous avez une Bible qui fait des références à l'Ancien Testament, vous verrez que dans ces passages, il y a beaucoup de références à des passages de l'Ancien Testament. Ce sont là deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et ça, c'est une référence à quoi, d'après vos Bibles ? Alors, si vous avez une Bible qui fait des références, c'est le prophète Zacharie, chapitre 4. On va aller voir Zacharie, chapitre 4. Zacharie, c'est l'avant-dernier des petits prophètes avant Matthieu, avant le Nouveau Testament. Il y a Malachie. Bien Malachie ne profite jamais. Zacharie 4. Qui veut lire les versets 1 à 6 ? Oui, Hervé.
Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes.
Alors, c'est Zacharie 4.
Pardon. Ah non, j'étais 4, j'étais 6.
Il
y avait 4 chars.
L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu ? Je répondis: je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes, qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase, et l'autre à sa gauche. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur ? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle.
Quelqu'un d'autre pour lire de 8 à 14 ?
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: les mains de Zorobabel ont fondé 7 maisons, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient les deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oies qui se tiennent devant le Seigneur pour toute la terre.
Merci. Alors, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le deuxième temple qui est rebâti par Zorobabel, qui revient d'exil. Et quand il revient, c'est une pile de rochers après la destruction par Babylone. C'est un terrible désordre. Et les Juifs qui reviennent sont complètement découragés lorsqu'ils voient le chantier. Qu'est-ce que ça représente que de reconstruire le temple? C'est, quand ils parlent d'une grande montagne, c'est une grande montagne de pierres en désordre, de pierres renversées, de piliers. Et c'est là que Dieu encourage justement Zorobabel, en lui disant cette phrase célèbre, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est là que ça se trouve. Peut-être que vous connaissez ce verset. C'est pour dire que c'est pas avec tes propres moyens que tu vas arriver à reconstruire le temple, mais c'est le Seigneur qui va te montrer, l'esprit du Seigneur qui va t'aider. Et la grande montagne qui semble tellement difficile à remettre en place, elle va être aplanie. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. On va pouvoir s'y retrouver et les mains vont l'achever. Et il y a cette vision dans le rêve de Zorobabel où il voit une représentation de l'Esprit Saint, un chandelier tout en or avec un vase à son sommet, portant sept lampes et sept conduits pour les lampes. Et il est en fait connecté à deux oliviers, l'un à droite, l'autre à gauche du vase. Donc des fois, c'est bien de rêver. Ça ne veut pas dire que tous les rêves aient un sens qui vienne de Dieu, mais dans la parole, on a souvent des gens qui ont des visions divines, ainsi inspirées. Et l'idée, c'est que l'huile d'olive, elle coule directement des oliviers. L'huile d'olive, c'est une image du Saint-Esprit, de la lumière qui est donnée par le Saint-Esprit. Et il est dit, à la fin de ce petit chapitre qu'on a lu, il demande, qui c'est ces deux rameaux d'olivier qui sont près des tubes d'or d'où découle l'or? Et il lui dit, tu ne les reconnais pas? Et en fait, il dit, ce sont les deux oies qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. Là, on pense que c'est pas les mêmes personnages que dans le passage qu'on est en train de lire dans l'Apocalypse. C'était une réalisation immédiate avec Zorobabel et le grand prêtre Josué de l'époque. Il y a un autre passage qui fait allusion à leur identité. Mais encore une fois, prophétie, il y a toujours une première réalisation à l'époque historique et puis une réalisation à la fin des temps. Et il reprend la description pour dire, il y a deux oliviers, deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et là, il commence à décrire ces deux personnes. Et il dit, verset 5, si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis comme un lance-flamme. Si quelqu'un veut leur nuire, il faut que cette personne va être tuée de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Donc il y a ces deux personnages Et puis, au verset 7, il est dit, on y reviendra, je ne sais plus si c'est Tonio ou moi qui en parleront d'abord, de la bête qui monte de l'abîme, on en a déjà parlé, comme étant l'antéchrist, celui qui veut se faire passer pour Christ, qui va leur faire la guerre, et qui va les vaincre et les tuer. Et leurs cadavres resteront sur place, sur la place de la grande ville, donc à Jérusalem, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Ça, c'est le fait que la ville n'est pas pieuse comme elle devrait l'être. La même où leur Seigneur a été crucifié. Si jamais on avait un doute, maintenant on est fixé. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on mette leur cadavre dans une tombe. Donc, l'Antéchrist va mettre fin à la prophétie de ces deux témoins. Et leurs cadavres vont rester dehors dans la rue pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les enterre. Peut-être qu'ils auront peur que... il ressuscite comme Jésus-Christ avait ressuscité. Ça, c'est une supposition personnelle. Verset 10. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, seront dans l'allégresse. Ils vont faire la fête. Ils vont s'envoyer des cadeaux les uns aux autres. C'est une espèce de Noël satanique. Si vous pensiez que Noël, c'était satanique, c'est vrai qu'il y a des aspects, l'aspect commercial, l'aspect de pression, l'aspect de grande bouffe. Tout ça, c'est pas nécessairement... quelque chose qui plaît à Dieu, mais là il y aura vraiment, à l'occasion de la mort de ces deux témoins, la fête. Et c'est pas seulement à Jérusalem, c'est tous les habitants de la terre qui vont le voir. Alors c'est intéressant de voir ces passages, parce que quand on lit les commentaires qui étaient faits il y a 100 ans, et on a plein de commentaires, même avec Spurgeon et tous ces gars-là, ils avaient du mal à comprendre ce qui était dit, ils avaient des interprétations. Sans doute on fait la même erreur aujourd'hui en essayant de trouver des interprétations qu'on arrive à maîtriser, on maîtrise dans nos pensées. Mais ça, comment est-ce que c'est possible aujourd'hui? Aujourd'hui c'est possible, ça n'était pas il y a 60 ans, avant la télévision et les émissions de satellites qui font quand même, à un moment donné... on peut voir sur toute la Terre les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Londres. Au même moment. Et là, la Terre entière sera en mesure de voir sur CNN ou Fox ou je ne sais pas quelle antenne il y aura à ce moment-là. Et là, en direct, sur CNN, je crois que c'est bien d'imaginer ça. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et il se tint sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Les cadavres reviennent à la vie, ressuscitent. Et puis il y a une voix qu'on entend qui dit « Montez ici » et ils montent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Alors la question c'est, qui sont ces gars-là? Quelle est l'identité de ces deux personnages? Ça tombe bien, on est en train de travailler. On a dans les deux rois, on a parlé d'Élie, et on semble reconnaître pas mal de choses qui s'appliquent au prophète Élie. Il y a deux personnages dans la Bible qui ne sont pas morts de mort naturelle. Qui sont-ils?
Élie
et puis
Énoch.
Comment il avait été emmené, lui? C'était dans la Genèse.
Il était enlevé.
Il se promenait avec Dieu. Et puis à un moment, Dieu lui a dit « Mais on est plus près de chez moi que chez toi, peux-tu venir à la maison ?» Il a été emmené. Donc il y a deux personnages qui ne sont pas passés par la mort physique. Alors certains disent, voilà, c'est l'identité des deux, c'est Enoch et Élie, ce qui est possible, je ne conteste pas cette possibilité. Mais il faut savoir qu'avec la période de l'enlèvement de l'Église, il y a plein de monde qui va passer au ciel sans être mort une première fois. Et si on regarde donc l'identité d'Élie, il avait le pouvoir de fermer le ciel, hein, dans Jacques, Hébreux, Jacques 5, 17, je crois. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant
3 ans et demi.
Alors, c'est peut-être une coïncidence, mais ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Et là, de la même façon, pendant les jours de leur prophétie, qui étaient 3 ans et demi, il avait le pouvoir de fermer le ciel. Son compagnon, le feu sortait de leur bouche et dévorait leurs ennemis. Vous vous rappelez l'épisode dans 2 Rois 1, le prophète Ahazi, c'est comme ça qu'on dit en français, oui, je crois, qui envoyait des personnes pour se saisir du prophète Élie. Et à chaque fois, Élie, quand on lui envoyait une troupe de soldats, disait, on l'appelait homme de Dieu. Il dit, si je suis homme de Dieu, soyez zappés tout de suite. Et les deux premiers groupes ont été zappés tout de suite. Et puis il avait fait descendre le feu du ciel sur l'autel où il défiait les prophètes de Baal et où il avait réussi, en priant le vrai Dieu vivant d'Israël, à faire tomber le ciel qui avait fait consumer l'holocauste, le taureau, le taureau qui était offert en holocauste, et toute l'eau qui était autour, dont il avait aspergé le sacrifice. Donc c'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire tomber le feu sur ses ennemis. Et puis il y en a un autre qui a le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Ça vous rappelle qui ça? Ça vous rappelle Moïse. Voilà. D'autres passages qui corroborent cette hypothèse qu'il s'agit d'Élie et de Moïse, c'est dans le prophète, le dernier petit prophète Malachi, verset 23, c'est l'Éternel qui parle, même à partir du verset 22, il dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, cette prophétie, et puis un autre passage où on voit Moïse et Élie, ça devrait vous parler, ça, c'est où ça? Voilà, c'est dans Matthieu 17. Voilà, c'est... 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Donc c'est pas la première fois que Moïse et Élie travaillent ensemble. Matthieu 17, 3. Et c'est là que Pierre met encore les pieds dans le plat. Il se dit, oh c'est formidable, on va construire 3 petites tentes, 3 petits tabernacles, un pour Moïse, un pour Élie, un pour Jésus. Et la voix dans le ciel, le Père qui lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui lui rappelle qu'il a encore fait une bêtise, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré dans un tabernacle. Mais les deux témoins, beaucoup de commentateurs pensent qu'il s'agit de Élie et de Moïse. C'est pas très grave, leur identité. C'est intéressant de voir, d'après les références bibliques, les passages qui nous rappellent des choses encore dans toute la Bible, que l'on peut déterminer qui ils sont ou supposer qui ils sont. Et Ils vont donc être ressuscités. Ils vont rester morts et la terre entière va voir ces deux hommes ressuscités au bout de 3 jours et demi. Et là, il y a quand même une grande quinte qui va tomber sur les gens qui voient ça. Verset 13, « À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici que le troisième vient bientôt. » Donc tout ça, c'était une espèce de parenthèse. Il y a une espèce de chronologie. On a vu après, là, quand il est dit, oui. On avait vu dans le premier chapitre le plan, décrit ce que tu as vu, ce qui est, et après ces choses, ce qui va se passer. Et après, on a vu qu'il y avait les 7 sceaux, suivis des 7 trompettes, suivis des 7 tonnerres, dont je ne sais pas, dommage. Et puis les 7 coupes qui vont venir. Donc, ça, c'est à partir des sceaux, il va y avoir à la fin un peu comme un feu d'artifice, une fusée qui s'éclate. À chaque fois en plusieurs parties. Donc là, il y a une chronologie, mais après les événements particuliers qui sont rapportés un peu entre parenthèses, comme ces événements qu'on voit, la chronologie est moins nette et moins à rechercher. Mais un tremblement de terre à Jérusalem et 7000 personnes tuées. Et puis on va. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Je demandais quel encouragement pouvons-nous retirer en tant que chrétiens de l'histoire des 2 témoins. Catherine, toi qui avais fait tout ton devoir.
Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai répondu que leur témoignage, la fidélité à la parole de Dieu, l'obéissance à ses commandements, leur lutte contre l'idolâtrie, leur dévouement pour sauver le peuple malgré sa rébellion, la force, l'accomplissement des miracles que notre Dieu a permis face à l'incrédulité, qui était de mise au temps de Moïse et d'Élie, devraient nous servir d'exemple dans nos vies afin de glorifier Dieu, sauf leurs erreurs et leurs manquements quand on connaît leur vie.
C'est vrai que Élie était un homme comme nous. Moïse dit bien qu'il était, il voulait pas servir Dieu, mais dans l'accomplissement de leur devoir, de leur appel plutôt, on peut penser que le peuple juif, puisqu'ils sont à Jérusalem, il y a des nations païennes autour, mais le peuple juif doit être bouleversé de voir ces deux et de voir ce qui se passe lorsqu'il y a le tremblement de terre, lorsque un dixième de la ville s'écroule. Et les autres se donnent gloire à Dieu. Donc il y a un service de Dieu qui est très coûteux, mais en même temps, ils ont cette confiance que Dieu les appelle, qu'il va les protéger. Alors même s'ils passent par la mort aux mains de l'Antéchrist, ils vont être ressuscités. Nos 2 oliviers, nos 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. On va regarder la 7e trompette. Vous vous souvenez, il y avait eu un silence. Dans le chapitre 9, on était frappé, Tony avait bien expliqué ça, que devant tous les malheurs, devant toute la conviction qui aurait dû amener les hommes à Dieu, malgré les fléaux, les hommes ne voulaient pas se repentir, revenir de leur de leur meurtre, leur sortilège, de leur inconduite, de leur vol. Et là, lorsque le septième ange sonne de la trompette, c'est ce qu'on appelle la septième trompette, des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il règnera au siècle des siècles. » Ça, je crois que c'est ce que je vous avais demandé de mémoriser. Le royaume du monde est enfin revenu à Jésus-Christ, qui va régner pour toujours. Les 24 anciens, on avait dit, ça représentait quoi, les 24 anciens ? Voilà, c'était les saints de l'ancienne et de la nouvelle alliance. On peut dire maintenant que c'est l'Église qui sont assis devant Dieu sur leur trône, tombent face contre terre et adorent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, d'avoir saisi la grande puissance et d'avoir établi ton règne. » Et puis il rappelle « Les nations s'étaient héritées. » Ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits enfants, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Il était dit dans l'Ancien Testament qu'en fait le tabernacle, c'était une ombre des choses à venir. Le temple terrestre, c'était en fait qu'un modèle du temple céleste. Lorsque Dieu avait donné à Moïse les instructions pour construire le tabernacle, voilà, c'était en fait une ombre des choses à venir. Et là, on a l'arche de l'Alliance qui est retrouvée, apparemment. Alors après, là, c'est toujours les suppositions sur qu'est-ce qui est devenu, où elle est passée, cette arche. Il y a un livre non canonique, c'est-à-dire qui n'est pas reconnu comme étant inspiré par les protestants, mais qui figure dans la Bible catholique, deuxième livre des Maccabées, qui dit que Jérémie aurait transporté l'arche de l'Alliance dans la montagne de Moab, en Jordanie. Donc peut-être qu'il est aujourd'hui en Jordanie dans un sous-sol. Et ce même Jérémie nous dit qu'en fait Dieu va créer une nouvelle alliance dans nos cœurs. Jérémie 3, 16 et 17. On peut regarder rapidement. Jérémie disait « En ces jours-là, oracle de l'Éternel, on ne reparlera plus de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne la mentionnera plus, on ne remarquera plus son absence et l'on n'en fera pas d'autre. » Donc une prophétie disant qu'on allait oublier l'arche de l'Alliance, mais là il en est question de nouveau dans le ciel. Alors est-ce que c'est... Vous pensez que c'est la même? Et puis les éclairs, les tonnerres nous indiquent que d'autres jugements vont arriver, et on va continuer chapitre 12 avec l'histoire de la femme, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Combien il y a d'étoiles sur les billets de vos billets de banque en ce moment? Est-ce que vous avez compté? Sur le drapeau de l'euro, il y a 12 étoiles. Alors c'est pas nécessairement, mais c'est pour donner un peu de piquant et de se dire que peut-être on est en plein dedans. Voilà, on va s'arrêter là ce soir. S'il y a des questions, on peut essayer d'y répondre. Est-ce que vous êtes confus à un plus grand niveau? Est-ce que vous êtes davantage confus maintenant qu'on a... Alors c'est vrai que c'est... Autant il était intéressant de voir les sept églises et on pouvait avoir des affirmations. Souvent dans ces passages, on doit avancer avec précaution, mais on a encore une fois toute la Bible qui précède pour nous indiquer et nous aider à trouver le sens le plus probable. Voilà. Je termine avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci de nous rappeler que des fois on ne comprend pas tout parce que tu n'as pas complètement révélé ce que tu veux que tout ce que tu connais, Seigneur, mais tu nous as révélé certaines choses. Tu nous dis aussi que celui qui lit, qui étudie la parole, cette prophétie, l'Apocalypse, Seigneur, sera béni. Seigneur, aide-nous à vraiment rechercher ta parole, Seigneur, pour qu'elle nous parle, à revoir les passages de l'Ancien Testament qui peuvent l'éclairer. Et peut-être que le but, c'est de nous faire revoir des passages que nous connaissons mal dans le reste de la Bible. Aide-nous à être des étudiants consciencieux, Seigneur, de ta parole, pour qu'elle puisse nous transformer. Merci pour ces petites avancées de ce qui va se passer. On imagine déjà ces deux témoins, Moïse et Élie, à Jérusalem, Seigneur. On a peut-être vu pour certains d'entre nous des films où on les voit et on voit comment ils meurent, mais comment tu les ressuscites par un esprit de vie, de Saint-Esprit, Seigneur. Et merci parce qu'avec toi, nous avons la victoire, nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Même si tout autour de nous, Seigneur, tout autour de nous en ce moment, avec les attaques terroristes, la peur de l'islam et toutes ces choses, Seigneur, on peut être inquiet pour beaucoup, Seigneur, tu nous donnes ta paix qui dépasse l'entendement, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui contrôles l'histoire et c'est toi qui nous aimes, Seigneur. Sois béni, accompagne chacun, chacune ce soir, sois béni, sois glorifié dans nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Amen.